Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour et bienvenue pour Ici l'Europe en cette semaine européenne encore marquée par de nombreux débats sur l'attitude de l'Union face à la pandémie. Nous allons nous intéresser à d'autres polémiques, celles qui entourent la question de la migration, en particulier de l'agence Frontex qui surveille les frontières extérieures de l'Union européenne. Elle est dirigée par un Français, Fabrice Leggeri. C'est notre invité aujourd'hui. Bonjour Monsieur Leggeri.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Leggeri, vous êtes en duplex avec nous depuis le siège de Frontex à Varsovie en Pologne. Vous dirigez cette agence depuis 2015. Auparavant, vous étiez responsable de la lutte contre l'immigration illégale au ministère français de l'Intérieur. C'est à partir de la crise des réfugiés en 2015 que cette agence devient une pièce maîtresse du dispositif européen de surveillance des frontières externes. Alors que aujourd'hui, vous commencez à disposer de moyens conséquents. Vos actions sont sur la sellette. Des enquêtes de presse, des ONG ou des instances européennes pointent des manquements sur lesquels vous devez vous expliquer depuis plusieurs mois.
Alors Frontex, votre agence donc chargée d'aider les États membres à surveiller ces fameuses frontières extérieures, a-t-elle couvert ou participé à des refoulements de demandeurs d'asile en mer Égée vers la Turquie? Comme l'ont rapporté nos confrères de la presse allemande, c'est contraire, effectivement, ces refoulements au droit international des réfugiés.
Non, il y a eu, à partir du mois d'octobre 2020, des campagnes de presse avec des vidéos dont d'ailleurs, il faudrait s'interroger sur l'origine, démontreraient des actions illégales de refoulement maritime. Il y a eu deux enquêtes, une première que j'ai immédiatement fait diligenter, mais j'ai immédiatement demandé au conseil d'administration de Frontex et à la Commission européenne de bien vouloir considérer l'idée de faire leur propre enquête. C'est ce qui a eu lieu. Il y a eu un groupe de travail du conseil d'administration qui a travaillé sur du matériel, images, rapports, en fait tous les éléments liés aux opérations de Poséidon en Grèce. Et il y a eu dans le rapport final qui a été rendu au mois de février, la conclusion qu'il n'y a aucune preuve de l'implication directe ou indirecte de Frontex ou des gardes-frontières et gardes-côtes qui sont déployés par les États membres dans le cadre de Frontex. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a eu ensuite, évidemment, des recommandations qui ont été faites et elles sont bienvenues. Ce sont des recommandations pour améliorer la transmission d'informations, pour notamment adapter les canaux de remontée d'informations et les procédures pour tenir compte de la taille de l'agence qui a grandi, de la taille de nos opérations qui ont grandi. Et puis surtout, nous avons depuis janvier 2021 le déploiement progressif du corps européen, c'est-à-dire avec des agents publics européens qui sont employés par Frontex, plus les agents gardes-côtes déployés par les États membres.
Monsieur Leggeri, on aimerait revenir sur ce qui est pointé dans ce rapport. On propose que les actions des gardes-côtes de Frontex soient systématiquement filmées pour éviter les abus, les faux procès. Est-ce que vous êtes d'accord? On voit aussi que les eurodéputés vous ont entendu au début du mois de mars vous reprochent de ne pas avoir nommé des officiers chargés des droits de l'homme. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant? Où en êtes-vous dans ce recrutement? Qu'est-ce que vous mettez en place pour répondre à ces critiques, hein?
Il y a des choses très différentes. Je vais d'abord commencer par la question de filmer les activités. Je suis absolument favorable à filmer les activités parce que c'est la meilleure façon, effectivement, de montrer la bonne foi des gardes-frontières et des gardes-côtes qui travaillent. C'est aussi une façon de s'assurer que les consignes sont correctement respectées avec les règles de l'art et les règles de la déontologie. Maintenant, sur les événements eux-mêmes, je crois qu'il est très important de rappeler que les interceptions maritimes font partie du droit européen. Le règlement européen qui régit les opérations maritimes de Frontex dit clairement, et ça a été l'une des conclusions qui a été soulignée dans le rapport d'enquête, que lorsqu'on n'a pas affaire à un cas de secours en mer, des interceptions maritimes sont possibles. Et une interception, ça peut conduire à donner l'instruction à un bateau suspecté d'activités criminelles, suspecté de trafic d'êtres humains, suspecté de vouloir, par son comportement, se soustraire au contrôle, eh bien, ce bateau peut recevoir l'instruction de ne pas se maintenir dans les eaux territoriales ou de ne pas y entrer. C'est les instructions que nous recevons de la part des gardes-côtes grecs qui ont le commandement tactique sur les opérations de Frontex. Je rappelle que nous n'agissons pas avec des pouvoirs propres, nous agissons toujours sous le commandement de l'État, de l'Union européenne, qui nous accueille. Donc, il y a la possibilité de procéder à des interceptions qui conduisent à donner l'instruction à des bateaux de ne pas se maintenir dans les eaux territoriales ou de ne pas y entrer. Donc ça, je crois que c'est très important de pouvoir filmer ces activités et ça permettra de documenter également les conditions opérationnelles dans lesquelles nous travaillons. Il y a, par exemple, je ne sais pas si vous êtes informé, mais le week-end dernier, il y a eu encore deux bateaux de garde-côtes turcs qui ont délibérément percuter des bateaux de garde-côtes grecs. Voilà, donc nous sommes dans un environnement opérationnel et géopolitique qui est extrêmement sensible et donc le travail est très compliqué. Et donc je salue cette recommandation de pouvoir filmer toutes nos activités.
Mais alors justement, ensuite, en ce qui concerne... Fabrice Leggeri, oui. vous avez été particulièrement critiqué par certains eurodéputés qui ont réclamé votre démission. La commissaire en charge aussi, est-ce que à un moment vous êtes dit je suis dans l'œil du cyclone et vous avez songé à la démission ?
Non, quand on est dans l'œil du cyclone, on garde le commandement parce que quand on est certain d'avoir appliqué tout ce qu'il faut appliquer, on n'abandonne pas le navire. Parce que, comme l'a dit le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Skinas, il y a des voix qui n'ont pas envie de voir l'Union européenne se doter d'une agence de garde-frontières
et de garde-côtes. Vous pensez à qui, Fabrice Leggeri, vous pensez à qui ? Vous avez parlé de campagne de presse organisée. Qui est-ce que vous ciblez ? Les Turcs qui critiquent Frontex, d'ailleurs ? Ou au sein de l'Europe ?
Je pense qu'il y a, sur les questions migratoires, vous l'indiquiez d'ailleurs au début de l'émission, il y a des débats qui peuvent être extrêmement passionnés. C'est le cas dans certains États membres, c'est le cas au niveau européen. Donc voilà, il y a un contexte géopolitique, il y a un contexte politique, évidemment, autour des questions migratoires. Et voilà, et puis, pour la première fois de son histoire, l'Union européenne se dote d'un embryon de garde-frontières et de garde-côtes avec des éléments très symboliques, comme un uniforme, mais des éléments qui sont également des attributs d'exercice du pouvoir avec l'usage de la force, évidemment encadré par des règles de déontologie, encadré par le droit européen, encadré par le droit national, encadré par la déontologie, l'usage possible d'armes à feu. Donc tout ça, c'est quand même une révolution. Et dans les institutions, nous sommes en train de découvrir finalement l'apprentissage de ce qu'est le fait d'avoir des agents publics avec l'exercice de la force sur le terrain.
Et beaucoup, beaucoup d'argent, j'ai envie de dire, Fabrice Leggeri, beaucoup d'argent, 5,6 oui. milliards pour l'exercice 2021-2027, donc 10 000 gardes-frontières supplémentaires promis, une extension de votre mandat, la possibilité d'acquérir et de louer les propres équipements des navires, des drones et des radars. C'est devenu une agence évidemment très centrale et très bien dotée. Est-ce qu'on vous, finalement, envie cette dotation, c'est-à-dire là encore on parle de votre bras de fer avec la Commission, est-ce que cet argent-là on voudrait le récupérer, ces milliards, pour d'autres choses ?
Je ne crois pas qu'on puisse parler de bras de fer avec la Commission. Le vice-président Skinas a rappelé toute la pièce centrale que constitue Frontex. La commissaire Johansson l'a dit aussi. Elle a visité nos opérations à plusieurs reprises. Elle s'est rendue en Grèce il y a quelques jours. Elle s'est rendue aux îles Canaries il y a plusieurs semaines où elle a pu également visiter les opérations de Frontex. Elle s'est rendue en Albanie également où elle a visité les opérations de Frontex. Donc je crois que la notion de bras de fer n'est pas du tout la bonne perception. Simplement, il y a une situation effectivement budgétaire qui peut faire des envieux. Je rappelle quand même que 40% du budget qui avait été prévu pour Frontex a été amputé dans le cadre financier multiannuel de l'Union européenne. Donc oui, certainement, il y a probablement des réticences de la part de quelques-uns, mais ce n'est pas nécessairement la Commission. Mais il peut y avoir des réticences à doter une agence d'autant de moyens. Et puis, il y a la pandémie et ses conséquences économiques. Le vrai débat n'est pas budgétaire, je pense. Il est du côté de la responsabilité et donc du contrôle politique qui est exercé sur cette agence. Et moi, je suis pour ma part tout à fait satisfait de pouvoir enfin avoir un groupe, le groupe Scrutini du Parlement européen, qui permet d'avoir des débats attentifs sur le développement de Frontex. Et je me suis rendu il y a quelques semaines, effectivement, devant ce Scrutini Group et devant la Commission des libertés publiques. Je trouve que c'est très sain pour la démocratie de pouvoir avoir du temps et d'avoir, pour un directeur exécutif, une heure ou une heure et demie avec des questions et des réponses qui ont lieu dans un cadre serein, qui sont des vraies questions et auxquelles j'apporte des vraies réponses lorsqu'il y en a. Et lorsque nous voyons que nous devons doter, par exemple, d'un cadre juridique complémentaire, c'était le cas pour l'usage des armes à feu, où finalement, en développant l'acquisition, le développement du corps européen, il est apparu à l'agence que nous avions besoin de règles complémentaires pour encadrer tout ça. Donc je trouve que c'est très sain en termes de débat démocratique et en termes de transparence.
Il y a aussi, il y a les débats à l'Assemblée, il y a aussi beaucoup de contrôle sur comment est-ce que l'argent est dépensé. Parce que on a des ONG qui veillent un petit peu à la bonne dépense des deniers européens, et notamment Corporate Europe Observatory.
C'est la Cour des comptes et le Parlement qui sont... Non, mais madame,
oui, mais il y a aussi un travail indépendant. Tout à fait. Mais il y a aussi un travail qui est réalisé par des observateurs indépendants, comme cette ONG Corporate Europe Observatory, qui s'est émue de voir que vous avez reçu 17 fois des industriels, évidemment, ils ont beaucoup de choses à vous vendre, puisque vous avez beaucoup d'argent. Et on vous reproche de défendre plutôt les intérêts de l'industrie. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette
critique ? Non. Alors, d'abord, je réponds premièrement que les autorités de contrôle budgétaire sont tout d'abord l'autorité budgétaire de l'Union européenne elle-même, c'est-à-dire le Conseil et le Parlement, et c'est le Conseil d'administration de l'agence, mais c'est aussi la Cour des comptes européenne. Et je rappellerai que les comptes budgétaires de l'année 2019 ont reçu un avis favorable de la Cour des comptes, et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut faire confiance aux institutions que nous avons. Ensuite, s'agissant de ces critiques d'avoir des contacts avec l'industrie, je rappellerai que c'est le mandat de l'agence de développer, dans le cadre de la recherche, des solutions technologiques pour l'Union européenne en matière de contrôle des frontières. Alors, nous organisons régulièrement des journées de l'industrie qui sont publiques, qui sont annoncées sur notre site internet, sur certaines thématiques pour lesquelles sont invitées les entreprises qui le souhaitent, les chercheurs qui le souhaitent. Nous avons en général la présence de représentants de plusieurs États membres, jusqu'à 15 ou 17. Nous avons également des représentants des services de la Commission européenne. Donc tout cela se fait de façon absolument transparente. Nous allons néanmoins améliorer la transparence, et au cours du mois d'avril, un registre sera établi pour recenser de façon plus précise qui participe à quelle réunion.
Frontex fait aussi l'objet d'une enquête de l'Office européen de lutte antifraude, qui est en train d'éplucher vos dépenses pour savoir s'il y a eu des dîners un peu somptueux, si tout cela est bien géré.
Je vais vous dire très rapidement. Oui. Cette enquête, malgré le nom, cette enquête, elle a commencé à propos des accusations de refoulement maritime, de pushback, qui est un mot qui est utilisé en anglais. Bon, donc ça, c'est le point de départ, donc avec ces vidéos à la fin du mois d'octobre qui ont été diffusées par un certain nombre de médias, notamment en Allemagne. Et voilà, après, vous avez évidemment des médias, je crois, britanniques qui avaient, il y a plusieurs années, interrogé sur le prix d'un dîner qui avait été organisé au printemps 2015 lors de la journée des gardes frontières qui s'était tenue au printemps 2015 et qui avait rassemblé à peu près 800 personnes. Donc voilà ce qui a été diffusé à nouveau par certains médias au cours de l'automne. Il y a eu quelques questions parlementaires sur les dépenses, et en toute transparence, j'ai répondu et je suis allé même plus loin que les questions qui étaient demandées. Et ce que l'on observe, c'est que sur les années depuis 2015 jusqu'à 2020, nous avons effectivement organisé des grands rassemblements avec des gardes-frontières et des gardes-côtes, mais le prix, évidemment, a été optimisée. Et j'ai informé de tous les événements de plus de 50 personnes organisées par l'agence. Quand on parle d'événements, il ne s'agit pas de dîner. Il s'agit de journées de travail, parce que la mission de l'agence, c'est aussi de faire le lien. Parce qu'il y a un concept aussi dans notre mandat qui est les gardes-côtes et gardes-frontières comme réseau de l'ensemble des États. Donc en réalité, il y a 110 000 gardes-frontières et gardes-côtes qui, en Europe, sont des autorités nationales et qui doivent travailler ensemble. Et l'un des rôles de l'agence est aussi de les faire travailler ensemble. Donc nous organisons des événements, des réunions. Alors bon, en période de pandémie, c'est plutôt sous forme de téléconférence.
Alors justement, on va en parler de la pandémie, monsieur Leggeri. On a bien compris. Parlons de cette pandémie et de son effet sur les migrations.
Alors la pandémie, on l'a constaté partout, elle a fait chuter le nombre de migrants puisque les frontières sont fermées. Elle a d'un autre côté exacerbé les moteurs des migrations, l'insécurité alimentaire, la crise économique, des détonateurs qui, peut-être à retardement, auront un impact sur les déplacements. À quoi ressemblera le monde migratoire de demain, Fabrice Leggeri ?
Alors, il y a effectivement une réduction en 2020 et en 2021 du nombre d'entrées irrégulières. Ceci étant, on observe dès aujourd'hui, alors qu'on est encore en période de pandémie, une augmentation très forte des arrivées en provenance du Maghreb, notamment par la Méditerranée centrale, avec beaucoup de Tunisiens, d'Algériens et dans une certaine mesure aussi de Marocains. Donc on a la route de la Méditerranée centrale qui est en augmentation, qui est plutôt en train de doubler en termes d'intensité. Et puis nous avons la route par les Canaries, donc de l'Atlantique, de l'Afrique de l'Ouest, avec des nationalités subsahariennes, mais aussi des Marocains, donc qui se sont rendus vers les îles Canaries. On a eu en 2020, en pleine année de pandémie, une multiplication par 10 du nombre des migrants irréguliers arrivant donc en Espagne, aux îles Canaries. Donc il y a effectivement des raisons économiques, notamment on le voit au Maghreb, puisque la pandémie effectivement, comme partout dans le monde, provoque des chômages massifs. Et donc on peut s'attendre à ce que la pandémie étant relativement sous contrôle à un moment, il y aura de nouveau des afflux d'immigration irrégulière. Surtout lorsque les vols aériens, lorsque les moyens de transport à l'échelle du monde seront à nouveau à un niveau à peu près normal, on aura vraisemblablement une facilitation à nouveau de tous les phénomènes d'immigration à partir des pays d'origine, mais aussi à partir des pays de transit, puisqu'un certain nombre de migrants se sont retrouvés d'une certaine manière coincés dans certains pays de transit. Donc c'est un phénomène qu'on a observé déjà à l'été 2020. Au moment du relâchement, de l'assouplissement des mesures de confinement, on a observé à nouveau une augmentation.
Pour conclure très rapidement, six mondes d'après il y a, parce qu'on peut douter aussi de la fin de la pandémie, est-ce que les pays moins développés, moins vaccinés vont voir se développer les variants du virus Covid et du coup notre participation à l'initiative COVAX pour vacciner l'Afrique et les pays les plus pauvres, est-ce qu'elle est suffisante? Comment vous voyez ce phénomène?
Alors bon, je ne suis pas un expert médical ni en vaccin, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il est d'un intérêt crucial de vacciner rapidement un maximum de la population, non seulement européenne, mais aussi de la population mondiale. C'est ce que je comprends, en tout cas, de ce que je lis et de ce que j'entends des experts. Et on ne pourra effectivement avoir une mobilité internationale normale que lorsque la pandémie sera endiguée. Et voilà, ce que les experts nous disent, c'est que la meilleure solution, c'est le vaccin. Et donc, très certainement, il est d'un intérêt, je dirais, de l'humanité tout entière, de faire en sorte que tous les habitants de la planète puissent avoir accès à ce vaccin.
Fabrice Leggeri, le directeur de Frontex, merci d'avoir répondu à l'invitation d'ici l'Europe, une émission proposée par RFI et France 24.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.